Bonjour, vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes et c'est toujours avec Régis. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pas d'invité, mais une émission consacrée à un genre musical bien défini, le requiem. Alors me direz-vous, mais pourquoi le requiem et pourquoi maintenant ? Alors si j'ai choisi de vous parler aujourd'hui du requiem, c'est parce que nous passons à l'antenne en novembre, et que novembre est traditionnellement le mois où l'on fait mémoire de nos disparus, que ce soit le 2 novembre, le jour des défunts, le 11 novembre, le jour où la nation commémore ceux qui ont donné leur vie en temps de guerre, et puis malheureusement, le 13 novembre, qui sera le premier anniversaire de l'attentat du Bataclan. Alors c'est vrai que ce n'est pas un sujet très gai, mais vous verrez que l'on peut écrire une musique de requiem pas aussi sombre qu'on pourrait le craindre, et parfois même souriante et pleine d'espérance dans un monde meilleur. Le requiem. Historiquement parlant, le genre apparaît relativement tôt. Appelé d'abord « messe des morts », il prend vite le nom de requiem, qui est le mot « requies » à l'accusatif « bonjour les latinistes » dans la phrase « requiem aeternam dona eis domine » et lux perpetua luceat eis, qui veut dire donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière perpétuelle brille pour eux. Le premier requiem fut composé sous ce nom vers 1460, mais auparavant, la messe des morts était chantée en grégorien. Puis le genre se développe, apparaît la polyphonie, puis l'accompagnement musical, pour devenir enfin un genre musical à part entière, qui donnera entre autres des versions très opératiques, telles celui de Verdi ou de Berlioz. Et puis, si le requiem s'est inspiré du rituel de la religion catholique, la religion protestante, quant à elle, a suscité la composition d'œuvres très remarquables, dont entre autres le très célèbre Deutsches Requiem de Brahms, sans oublier bien évidemment ceux de religion orthodoxe, juive ou anglicane. Le requiem est soumis à une certaine rigueur de composition. Ainsi, on trouvera successivement l'introit, le kyrie, la séquence du dies irae, l'offertorium, le sanctus, l'agnus dei, le lux aeterna, le liberame, le in paradisum et le pie Jesu. Mais attention, tout cela varie d'un compositeur à l'autre, avec des ordres de passage différents et selon les vers du dies irae que le compositeur aura retenu, ce dies irae lui-même contenant 20 strophes. Et après ce long préambule, venons-en quand même à la musique. J'ai choisi différentes œuvres, certaines très connues, d'autres un peu moins, et ce choix est complètement arbitraire. Basé uniquement sur mon goût personnel, mais aussi parce que ce sont des CD que j'ai dans ma propre discothèque, tout simplement. Je ne respecterai pas l'ordre chronologique des œuvres, c'est-à-dire de la plus ancienne à la plus moderne, mais j'ai choisi d'illustrer le déroulement normal d'un requiem, avec pour chaque partie celle que j'ai jugée la plus appropriée pour l'illustrer. Et pour l'introit, nous écoutons le tout début du requiem de Gabriel Fauré dans sa version 1893.
Thank you.
Requiem aeternam dona eis domine, et lux perpetua lucea teis. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, requiem, le repos. C'était le requiem de Gabriel Fauré, le début, qui était interprété par la Chapelle Royale et l'ensemble oblique sous la direction de Philippe Hervaig. J'ai eu le grand bonheur de chanter cette œuvre à plusieurs reprises et ce fut à chaque fois la même émotion, tant la musique vous porte. Ce qui est à noter ici, c'est le tempo de la musique. La noire, qui est la valeur de base dans une mesure à 4 temps, est indiquée à 40 sur la partition, soit 40 battements minute, ce qui est extrêmement lent, et par comparaison, nous avons le cœur qui bat, nous, humains, au repos à 60-70 pulsations minute. Après l'introit et le kyrie vient l'offertorium qui comporte le fameux dies irae. Je dis fameux parce que chacun sait que le dies irae est vraiment l'expression de la tristesse et de l'affliction lors des cérémonies funèbres, exprimée souvent avec force. Le début du dies irae dit ceci, jour de colère donc, dies irae, jour de colère, que ce jour-là où le monde sera réduit en cendres selon les oracles de David et de la Sibylle. Quelle terreur nous saisira lorsque le juge apparaîtra pour tout juger avec rigueur. Le son merveilleux de la trompette se répandant sur les tombeaux nous rassemblera au pied du trône. Nous écoutons le dies irae et le début du Tuba Mirum du Requiem de Verdi.
Thank you.
C'était le chœur et l'orchestre de la Scala de Milan, sous la direction du regretté Claudio Abbado, un enregistrement de référence. Je dois dire que l'espèce de déséquilibre et de contretemps dans le battement des percussions crée ce vrai malaise que l'on peut ressentir lors des funérailles d'un être cher. Et nous avons entendu que Verdi a pris au pied de la lettre le vers, le son merveilleux de la trompette. Toujours dans l'Offertorium, vient, après le Dies Irae et le Tubamirum, chez la plupart des compositeurs, leur extremende, qui se traduit ainsi. Ô roi d'une majesté redoutable, toi qui sauves les élus par grâce, sauve-moi, source d'amour. Et chez Mozart, nous trouvons aussi assez développé le Lacrimosa, qui exprime toute la tristesse, mais aussi pour les chrétiens, l'espérance de la vie éternelle. Jour de larmes que ce jour-là, où de la poussière ressuscitera le pécheur pour être jugé. Daigne, mon Dieu, lui pardonner. Bon Jésus, notre Seigneur, accorde-lui le repos. Amen. Nous écoutons donc maintenant le Rex Tremendae et le Lacrimosa, extrait du Requiem certainement le plus connu au monde, celui de Mozart.
Thank you.
Nous entendions ici le Wiener Philharmoniker sous la direction de Herbert von Karajan. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans Au fil des notes. Il faut savoir que ce Requiem de Mozart est une œuvre inachevée et vraisemblablement la dernière de Mozart. Essentiellement composée sur son lit de mort en 1791 et complétée par un de ses élèves, Franz Xaver Süssmayer. Et non pas par Salieri, comme nous le montre Miloš Forman dans son film Amadeus. Il comporte la référence K626, qui est le dernier numéro du catalogue des œuvres de Mozart. La flûte enchantée, composée la même année, porte le numéro K620. Et ce qui montre, s'il en était besoin, tout le génie de Mozart, capable de passer d'une musique plutôt légère à une musique très sombre, qui devait probablement être comme l'annonce de sa propre mort. Mais après ces musiques qui expriment notre douleur face à la mort, nous abordons des moments peut-être un peu plus légers. En effet, nombre de requiem incluent le Pie Jesu, qui est toujours chanté, à quelques exceptions près, par une soprano ou une mezzo-soprano soliste. C'est toujours, bien que la musique en soit plutôt douce, un grand moment d'émotion, mais une émotion tout en intériorité. En quelque sorte, c'est notre cœur qui prie et qui chante. Le texte est très simple. Pie Jesu Domine, dona eis requiem, dona eis requiem sempiternam. Bon Jésus, notre Seigneur, accorde-leur le repos éternel. Il y a deux Pie Jesu qui me touchent particulièrement, celui de Gabriel Fauré et celui de Maurice Duruflé. Composés à un demi-siècle d'écart, ces requiem ont une certaine similitude, à la fois dans l'inspiration et dans la couleur musicale. Et j'ai eu beaucoup de mal à choisir entre les deux. J'ai choisi le plus récent. Nous écoutons le Pie Jesu de Maurice Duruflé, tiré de son requiem composé en 1947.
Thank you.
C'était la mezzo-soprano Hélène Bouvier et l'orchestre de l'Association des concerts amoureux, dirigé par Maurice Duruflet lui-même. Il faut dire qu'ensuite, dans la composition du Requiem, les auteurs s'accordent certaines libertés avec le déroulement normal d'une messe des morts. De même que le Pie Jesu peut changer de position, de même les compositeurs peuvent choisir tel ou tel verset des textes pour les mettre en avant, selon leur inspiration. Ainsi, l'on trouve dans le Requiem de Saint-Saëns, que j'ai eu aussi le bonheur de chanter, Oro Supplex et Hostias, qui se retrouvent à peu près dans chaque Requiem, mais pas chez Verdi, Sanctus, dans chacune des œuvres que j'ai choisies aujourd'hui, Benedictus, Agnus Dei, Liberame, Lux Aeterna et In Paradisum. Alors, je vous propose de faire une petite comparaison entre deux extraits du même nom, l'Agnus Dei. Le premier est de John Rutter, extrait de son Requiem, écrit en 1985, c'est-à-dire hier, dans l'échelle du temps musical. John Rutter est né en 1945 à Londres et compose son Requiem en 1985. Cette œuvre n'est pas du tout conventionnelle, car Rutter s'est inspiré des textes de la liturgie catholique contenus dans un livre de prières communes de 1662, mais il y a ajouté des textes en anglais, traduction de psaumes latins. Nous avons ainsi, juste après le début du classique Requiem Aeternam, etc., Out of the Deep, qui est la traduction du psaume 130, Des profondeurs je crie vers toi Seigneur, et on trouvera en fin d'œuvre The Lord is my shepherd, qui n'est autre que le psaume 23, Le Seigneur est mon berger. Vous allez dire que je suis très immodeste, mais celui-là aussi, je l'ai chanté. Voici donc l'Agnus Dei du Requiem de John Rutter. C'était la magnifique interprétation de l'Agnus Dei de Rother par le Choir of Clare College of Cambridge, quelques musiciens du City of London Symphonia, sous la direction de Timothy Brown. Et maintenant, nous changeons de genre avec l'Agnus Dei de Camille Saint-Saëns, qui lui est tout à fait hors norme. Hors norme car les six voix possibles sont présentes. Soprano, mezzo-soprano, alto, ténor, baryton et basse, auxquels il faut ajouter bien sûr le chœur mixte et l'orchestre, autant dire qu'on est plus proche de l'opéra que d'une messe des morts. Et un requiem hors norme aussi, parce que Saint-Saëns l'a composé en 8 jours en 1878. Nous écoutons. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans Au fil des notes, une émission consacrée aujourd'hui au Requiem. C'était donc le chœur régional Vitoria d'Île-de-France, préparé par Michel Picmal, l'Orchestre national d'Île-de-France sous la direction de Jacques Mercier, ainsi que parmi les solistes Françoise Paulet, Magali Chalmaud-Delmonte, Roselyne Cyril, Jean-Luc Viala et Nicolas Rivinck. J'aurais aimé vous faire écouter bien d'autres œuvres, mais le temps m'est compté. Il aurait fallu parler du War Requiem de Britten, du Deutsches Requiem de Brahms, auquel j'ai fait allusion en début d'émission, et de bien d'autres, car à ce jour, on dénombre pas moins de 2000 Requiem. Mais je ne peux pas terminer cette émission sans notre gloire locale, Hector Berlioz, qui a composé un Requiem absolument prodigieux, comme la plupart de ses œuvres. Très grand orchestre, très grand chœur, une durée de 1h30 environ, et je peux le dire, une partition redoutable. Je voudrais juste vous faire écouter la toute fin de ce Requiem, les dernières mesures, les dernières minutes de l'Agnus Dei, où l'on entend, à la toute fin, dans un pianissimo fabuleux, une musique tout en nuances, jouant sur des intervalles infimes, passant du dièse au bémol d'une note à l'autre, avec une timbale qui semble donner le rythme du battement d'un cœur en souffrance. Bref, un moment de pure intensité, à la fois majestueuse, douloureuse, mais aussi lumineuse. Le cœur chante un amen comme je n'en ai jamais entendu ailleurs. Je vous invite à écouter vraiment ce passage, jusque et y compris les derniers coups, ô combien délicats de la timbale. C'était donc les dernières mesures du Requiem de Hector Berlioz, les dernières mesures de l'Agnus Dei. Et c'est un enregistrement assez ancien. Charles Münch dirigeait le chœur et l'orchestre philharmonique de la radiodiffusion bavaroise. Nous voilà au terme de cette émission consacrée au Requiem, un genre très particulier dans la composition musicale. Mais on a vu que, malgré le cadre de la liturgie imposée aux compositeurs, ceux-ci ont néanmoins fait preuve d'une grande liberté. Et maintenant, comme d'habitude, quelques annonces. Au Conservatoire Hector Berlioz de Bourgoin-Jallieu, le Folk Club, qui permet aux élèves des ateliers de jouer leur répertoire de danse et de musique d'Auvergne, des Balkans, de musique celtique, etc. Et c'est le 2 décembre à 19h à Villefontaine. Le Jazz Club, avec les ateliers du 3e cycle, qui vous présenteront les grands standards du jazz et bien d'autres choses. Au Théâtre du Vélin, Lise Chéral, le 15 novembre à 20h30. À ne pas manquer, l'opéra de Katsu de Kurt Weill et Bertolt Brecht, le 25 novembre à 20h30. Et puis, pour rire et sourire en musique, les Sea Girls, les 6 et 7 décembre à 20h30. Sea Girls, S-E-A plus loin, Girls, les filles de la mer, a priori. À l'opéra de Lyon, très beau programme encore. L'enfant et les sortilèges de Maurice Ravel tout au long du mois de novembre. Hermione de Rossini le 13 novembre à 16h. Une séance un peu particulière à la découverte de la voix de la soprano le 21 novembre à 18h30. Et un récital Patricia Petitbon, notre soprano un peu excentrique, le 27 novembre à 16h. À l'Auditorium de Lyon, le festival russe, qui s'ouvre avec la Philharmonique de Saint-Pétersbourg, sous la direction de Yuri Temirnakov, dans un concert Tchaïkovski et Ravel, qui se poursuivra à ce festival russe avec l'Orchestre National de Lyon, direction Léonard Slatkin, et qui donne les 6 symphonies de Tchaïkovski les 17, 22 et 26 novembre. Et bien sûr, n'oubliez pas de consulter les sites internet de nos amis que nous venons de citer pour avoir tous les renseignements utiles. Je remercie aujourd'hui particulièrement Laurent qui était à la technique. Je vous dis à très bientôt dans Au fil des notes sur Couleur FM 97.1.